Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de La Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À la présentation, Nanit Talani. Plusieurs pays à travers le monde allègent les grandes restrictions anti-Covid mises en place il y a environ 2 ans. Toutefois, le virus est encore parmi nous et continue d'infecter les gens. Pour aider les populations à se prémunir contre cette pandémie, qui est loin d'être vaincu, l'ONG médicale humanitaire Anima, basée à Dakar au Sénégal, a lancé plusieurs campagnes de vaccination anti-Covid dans différents états de l'ouest du continent. Quelle stratégie l'ONG Anima a-t-elle mise en place pour atteindre même les zones difficiles d'accès, pour mobiliser les populations et vaincre leur réticence à la vaccination? Et surtout, pourquoi se faire vacciner?
Même si la situation peut paraître un peu plus calme, il y a quand même assez régulièrement des alertes ou en tout cas des remontées de cas, donc on reste très vigilant par rapport à ça.
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répondra au cours de cette émission Madame Mélanie Tarabo, référente Covid pour Anima et responsable médical opérationnel au sein de l'ONG. Nous échangerons également sur quelques activités d'Anima en Afrique, une ONG qui répond aux situations d'urgence médicale sur le continent. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé avec Linor Moudou dans la deuxième partie de notre programme.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
À présent, notre discussion avec Madame Mélanie Tarabo, référente Covid pour l'ONG Anima, basée à Dakar, au Sénégal. Bonjour Madame Tarabo, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Avant de parler de ce que vous faites actuellement, notamment les vaccins, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour cette interview, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter la petite histoire derrière la création de votre organisation?
Oui, bien sûr. Bah, merci aussi à vous de vous intéresser à nos activités, à nos actions. Pour vous en dire un petit peu plus sur ALMA, donc ALMA, c'est l'Alliance for International Medical Action, donc c'est une ONG humanitaire médicale internationale dont le siège opérationnel est basé à Dakar, au Sénégal. Et nous sauvons des vies depuis environ 12 ans, principalement lors de situations d'urgence et de crise sanitaire. Donc en gros, le modèle ALMA, c'est vraiment une alliance entre des médecins, des ONG locales, des chercheurs, et qui s'appuie un peu sur ce principe de co-construction. Donc en gros, l'idée derrière cette ONG, c'est vraiment essayer d'avoir une approche au plus proche des bénéficiaires, de travailler avec des acteurs, que ce soit des personnes ou des organisations issues de nos contextes d'intervention qui ont donc une expertise, que ce soit du terrain, des pathologies, des populations bénéficiaires, et donc de créer ces partenariats, cette alliance nationale ou internationale.
Vous appuyez sur quelle action principalement?
Donc en gros, on a évidemment différentes actions, mais si on doit en résumer les principaux, alors vraiment le cœur un peu d'ALMA, c'est de transformer en fait la médecine humanitaire, et on essaye de s'appuyer à la fois sur la recherche et sur l'innovation, et aussi dans l'idée de multiplier l'efficacité en fait de nos actions pour mieux protéger les populations des crises sanitaires. Donc principalement, si on peut définir un peu les principales thématiques sur lesquelles ALMA travaille, ALMA et ses partenaires, on aura notamment la malnutrition, la santé maternelle et infantile, le paludisme, tout ce qui va être maladie, fièvre hémorragique, notamment Ebola, mais aussi la Covid. Mais on fait aussi de la chirurgie et différents autres programmes. Mais si on veut résumer un peu les grandes thématiques, voilà, je pense que c'est malnutrition, santé maternelle et infantile, tout ce qui va être pathologie tueuse comme le paludisme, les maladies fièvre hémorragique, les maladies émergentes comme Ebola. Et évidemment, quand la Covid malheureusement est arrivée sur le plan mondial, mais donc aussi dans nos pays d'intervention, on a évidemment travaillé sur des programmes pour essayer de réduire la mortalité, faire de la prévention, etc.
Vous avez votre quartier général à Dakar, au Sénégal. Est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays aussi en Afrique?
Principalement les pays où on intervient aujourd'hui, alors même si évidemment nos interventions évoluent au fur et à mesure des crises, donc là je vais vous citer les pays où actuellement on a des programmes, donc c'est la Mauritanie, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Soudan, la RDC, la RCA, le Nigeria et le Cameroun. Ah, d'accord. Mais voilà, on est aussi intervenu dans d'autres continents et dans d'autres pays, en fonction évidemment des crises, des urgences, où nos équipes peuvent se déployer assez rapidement.
Ah, d'accord. Mais actuellement, vous avez déployé des campagnes de vaccination. De quelles campagnes s'agit-il ?
Alors, au niveau, depuis l'historique d'Elma, on a évidemment participé à de multiples interventions sur la vaccination en appuyant les autorités sanitaires lors de la mise en œuvre de campagnes, notamment pour répondre à des épidémies comme rougeole, méningite, sur lesquelles on intervient assez régulièrement. On appuie aussi évidemment tout ce qui est programme en fait, de prévention, les programmes qu'on appelle de routine. Mais disons que depuis fin mai 2021, nous avons soutenu les autorités sanitaires pour les appuyer pour la vaccination contre la COVID-19. À ce jour, on a pu, grâce à ces programmes et en partenariat avec nos partenaires dans nos pays d'intervention et surtout les autorités sanitaires, on a pu participer à l'administration de plus d'1,2 million doses de vaccins contre la COVID qui ont pu être administrées, notamment dans les zones les plus reculées, les plus difficiles d'accès, pour essayer finalement de réduire un petit peu les difficultés d'accès qu'il peut y avoir pour certaines personnes qui sont plus éloignées, dans des conditions plus difficiles, etc.
Et comment mobilisez-vous les gens pendant les campagnes ? Est-ce que vous faites du porte-à-porte, vous faites des campagnes ? Comment ça se passe ?
Alors, on a plusieurs stratégies parce que comme en fait, on intervient vraiment dans différents pays, différents contextes. Donc, en gros, aujourd'hui, nos programmes de vaccination contre la COVID, ils sont menés en Mauritanie, au Mali, en Guinée, au Niger, au Tchad, en RDC, en RCA et au Nigeria. Donc, ça fait déjà 8 pays dans lesquels on intervient. À l'intérieur même de ces pays, on a parfois plusieurs projets qui sont dans des zones qui peuvent être très différentes. Donc, concrètement, on a vraiment des stratégies qu'on essaye d'adapter finalement à chaque contexte. Parce que les contextes sont différents. On travaille dans des zones urbaines, dans des capitales, mais on travaille aussi dans des zones beaucoup plus reculées. Et donc l'idée, c'est vraiment d'adapter les stratégies de mobilisation aux différents contextes dans lesquels on intervient. Mais si on peut résumer un peu la principale stratégie, c'est vraiment de s'appuyer sur la communauté. C'est ce qu'on a développé notamment pour créer cette adhésion et pour que finalement les programmes de vaccination s'intègre dans les activités de la communauté et qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne stratégie qui convient en fait aux populations. Donc en gros, pour faire simple, on essaye de créer ce qu'on appelle des comités de mobilisation pour la vaccination avec des leaders de la communauté, des représentants des différents groupes de la communauté, et des personnes influentes dans ces communautés. C'est avec eux qu'en fait on essaye de construire à la fois nos stratégies de mobilisation et de communication, c'est-à-dire travailler les messages, les faire participer la co-construction de ces messages, réfléchir avec eux et prendre vraiment leurs avis sur quelles stratégies on doit mettre en place. Donc par exemple, vous parliez à juste titre du porte-à-porte, et ça peut être un des panels de stratégies qu'on peut déployer. Mais notre idée, c'est de pouvoir les construire avec la communauté pour qu'elles nous disent à leurs avis, eux qui sont les représentants des différents groupes, que ce soit ethniques, que ce soit religieux, que ce soit hommes-femmes, que ce soit les personnes jeunes, les personnes âgées. C'est eux qui vont finalement nous orienter, connaissant exactement comment fonctionne la communauté, qui nous orientent sur comment adapter les meilleures stratégies, que ce soit pour la mobilisation. Et donc la sensibilisation, la communication, l'engagement communautaire autour de la vaccination et créer cette adhésion, mais aussi même sur les stratégies, le déploiement elle-même de la stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut des sites fixes, est-ce qu'il faut se déployer sur des marchés, est-ce qu'il faut se déployer au porte-à-porte, dans quelle zone il faut plutôt telle stratégie. Donc c'est tout ça, c'est de les construire avec les communautés. C'est surtout ça, et après on adapte évidemment, comme je vous le disais, les contextes dans lesquels on travaille sont vraiment différents. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire la meilleure stratégie qui correspond au mieux aux besoins des populations avec lesquelles on travaille.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Dans plusieurs pays, notamment en Afrique, les gens sont un peu réticents à l'idée de se faire vacciner. Est-ce que vous êtes aussi confronté à cette réticence des populations ?
Oui, ça arrive, évidemment. Alors nous, ce qu'on a noté, c'est que comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des contextes très différents. Dans certains de nos projets, dans certaines zones, une bonne adhésion à la vaccination, en plus de toutes les stratégies dont je viens de citer un peu, qui facilitent en fait, qui améliorent, qui permettent de mieux comprendre finalement quelles sont les perceptions, quels sont les messages qui circulent auprès de la communauté et potentiellement revenir aussi avec des messages pour essayer de faciliter cette adhésion. Il y a des endroits où c'est plus difficile et nous, ce qu'on a noté, c'est qu'en général, c'est plus compliqué dans les zones urbaines, notamment du fait que les gens sont peut-être plus usagers des réseaux sociaux et donc sont peut-être plus soumis à la circulation de fake news, comme on l'a vu dans le monde entier. Hein. Ce n'est pas du tout spécifique à l'Afrique. Je pense que c'est au niveau mondial, évidemment, qu'on est confronté à cette problématique de circulation de fausses informations. Et ça, évidemment, nous, ce qu'on note avec notre recul, c'est que sur les terrains dont nous, on travaille, c'est plus présent dans les zones urbaines. Alors, pas toutes, c'est encore une fois très différent d'un pays à l'autre, mais on note quand même cette différence, notamment par, on suppose que c'est en lien avec l'accès, ou en tout cas la facilité d'usage ou l'habitude d'usage de cette circulation de fausses rumeurs.
Donc, dans l'ensemble, les zones rurales sont plus réceptives aux vaccins anti-Covid plutôt qu'en ville.
En tout cas, c'est un plus gros défi en zone urbaine et ça nécessite de pouvoir essayer de comprendre en fait quels sont les messages qui circulent, comprendre où les gens s'informent, qui sont les personnes qui informent finalement la communauté pour essayer de travailler ces messages-là, d'autres messages pour faciliter l'adhésion à la vaccination en effet.
En dehors de cette réticence qui peut survenir de temps en temps, quels sont les autres défis auxquels vous êtes confrontés?
Alors concrètement, au début de nos actions, on a été confrontés au défi d'accès à un nombre de vaccins suffisant, notamment, encore une fois, pour les zones les plus éloignées, dans des contextes qui sont parfois difficiles d'accès. Mais ça, on peut dire que réellement, la situation elle a énormément changé depuis déjà pas mal de temps. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup plus de vaccins disponibles dans nos pays d'intervention. Après, voilà, il y a toujours des défis logistiques pour qu'ils puissent être acheminés dans les zones les plus reculées, parce que c'est vrai qu'on intervient, en tout cas à Lima. Alors, bien sûr, on travaille aussi, comme on l'a dit, dans des zones plus urbaines ou dans des capitales, mais on a aussi beaucoup de nos projets qui sont finalement dans des zones d'accès difficiles. Et là, on est plus confronté aujourd'hui à des difficultés du fait de l'insécurité, parce qu'on travaille dans des contextes qui sont parfois soumis à de l'insécurité, comme le Nord-Mali. On a aussi la situation qui peut être le cas aussi au Niger, au niveau du lac Tchad et d'autres contextes comme le Nigeria. Donc aujourd'hui, on a cette problématique-là. On a aussi parfois des problèmes d'accès du fait du climat, hein, saison des pluies, donc forcément des centres de santé, des populations qui vont être moins accessibles, en tout cas plus difficilement. Après, l'autre défi qu'on a, c'est de pouvoir, en tout cas nous, ce qu'on s'est donné à Lima comme objectif, c'est d'essayer de s'assurer que les personnes vulnérables, donc les personnes qui sont à risque de faire une forme sévère grave de la maladie, ou aussi le personnel soignant qui est en première ligne pour soigner les cas de Covid, mais aussi toutes les autres pathologies qui sont présentes dans nos pays d'intervention. Donc c'est aussi un défi d'arriver à ce que des personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, pour résumer les personnels de santé, puissent avoir accès à ces vaccins. Or, ce n'est pas des personnes qui sont très habituées à avoir recours aux soins parfois, qui sont parfois en dehors des systèmes de santé, qui peuvent aussi parfois pas facilement se déplacer. Donc ça, c'est un vrai défi sur lequel on essaye, encore une fois, d'élaborer des stratégies pour toucher le plus de personnes vulnérables possible, parce qu'on sait que c'est eux qui vont malheureusement, s'ils attrapent la Covid-19, potentiellement devoir être hospitalisés, voire décédés. Et on le voit hein, dans les chiffres sur l'ensemble des pays d'intervention du monde, et c'est aussi valable en Afrique, les personnes qui sont dans les hôpitaux ou les personnes qui décèdent de la Covid sont les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. Et donc nous, on essaie vraiment que ces personnes-là aient un maximum d'accès à ces vaccins en développant des stratégies ciblées sur eux, une mobilisation communautaire ciblée sur ces personnes, et aussi des stratégies, comme vous parliez tout à l'heure, porte à porte, ou en tout cas de trouver des moyens que ces personnes puissent avoir accès à ces vaccins.
Maintenant que la vie reprend un peu son cours normal, comme d'avant le Covid-19, beaucoup d'interdictions ont été levées. Quelle est l'importance de se faire vacciner contre le Covid-19?
Alors oui, c'est une question qui peut survenir. Alors il y a, même si la situation peut paraître un peu plus calme, il y a quand même assez régulièrement des alertes ou en tout cas des remontées de cas. Donc on reste très vigilant par rapport à ça. Une des difficultés, c'est un peu du fait de ce que vous disiez, que la situation au niveau global, au niveau mondial peut-être est un peu plus calme, il y a pas mal de restrictions qui sont levées. Une des difficultés, ça a été depuis le début finalement le fait que ça soit très sous-diagnostiqué aussi dans nos contextes d'intervention en Afrique. Finalement, on sait aujourd'hui avec les enquêtes de séroprévalence qui ont été menées dans différents pays que malheureusement beaucoup de gens ont été touchés par la Covid. Des personnes sont décédées sans forcément qu'on le sache. Et ça, c'est sûr que c'est plus difficile d'arriver à convaincre des communautés ou des personnes de se faire vacciner si finalement, eux, dans leur quotidien, ils voient moins le virus. Mais ça, c'est tout le travail de l'engagement communautaire qu'on essaye de mettre en place pour déjà expliquer que c'est encore une fois de la prévention. Et donc, c'est pour éviter la survenue de nouvelles vagues et potentiellement éviter à des personnes, notamment les personnes à risque de faire des formes sévères, d'avoir des conséquences suite à la Covid et parfois même de décéder, qu'il est important aujourd'hui de se faire vacciner. Donc, dans l'ensemble, ça reste un défi, mais on va dire que clairement, c'est grâce à la mobilisation communautaire et l'engagement qu'on fait auprès des populations qu'on arrive finalement à ne pas être trop confronté à cette problématique. Et voilà, comme je vous le disais, il y a encore un certain nombre de pays régulièrement qui ont des augmentations de cas. Et donc, on voit bien que malheureusement, on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie et que le risque est encore présent et que la vaccination a encore toute son importance.
Combien de temps va durer la vaccination, toute cette campagne contre le Covid?
Alors ça, c'est vraiment très, très difficile pour nous de dire ça. Je pense que ça, c'est des questions plutôt au niveau mondial. Ça dépendra, je pense, de plein de facteurs et à quelle vitesse on arrive à vacciner les personnes qui ont été ciblées pour cette vaccination. Donc, je ne saurais pas me prononcer, mais je pense qu'on a encore plusieurs mois pour pouvoir atteindre les objectifs que se sont fixés le monde pour une couverture vaccinale qui permettrait de réduire la transmission du virus et d'éviter surtout les formes sévères.
Avez-vous des partenariats avec d'autres ONG ou avec les gouvernements locaux?
Alors nous, on travaille complètement en partenariat avec l'ensemble des... Donc dans chaque pays d'intervention à Lima, on travaille vraiment en collaboration avec les ministères de la Santé. On travaille avec eux, souvent alors là sur la vaccination au sein de leur structure, en stratégie avancée. Mais voilà, quand on fait aussi d'autres programmes, on travaille vraiment main dans la main en fait, avec les autorités sanitaires. Et dans nombreux pays à Lima, on travaille aussi en partenariat avec des ONG nationales. Prenons peut-être l'exemple du Mali, du Niger, du Tchad et d'autres dans lesquels on est vraiment en partenariat avec une ONG ou des ONG nationales et on mène nos opérations conjointement.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour terminer, quel est le conseil que vous donnez à toutes les personnes qui nous suivent et qui pensent que le Covid se conjugue déjà au passé?
Comme je le disais tout à l'heure, je pense que malheureusement, on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie. On le voit assez régulièrement, que ce soit sur un continent ou sur un autre. On voit une augmentation des cas. On sait aujourd'hui que malheureusement, et notamment moi j'insisterai sur les personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, et évidemment le personnel de santé, il n'est pas encore, notamment en Afrique, massivement vacciné, en tout cas peu encore eu accès à cette vaccination. Et pour se protéger eux et pour le reste, pour protéger les autres, il reste important de pouvoir se faire vacciner.
C'était notre entretien avec Mélanie Tarabo, responsable médicale opérationnelle au sein d'Alima, une ONG basée à Dakar au Sénégal et qui répond aux situations d'urgence médicale en Afrique. Maintenant, place à Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, les experts s'inquiètent d'une recrudescence de l'épidémie de sida. La directrice exécutive de l'ONU SIDA, Winnie Byanyima, fera un état des lieux dans cette édition. Les cas de Covid-19 augmentent dans le monde, aussi les restrictions comme le port du masque sont de retour. Enfin, un hôpital au Cap en Afrique du Sud offre désormais des opérations par des robots. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Plus de 1,5 million de personnes dans le monde ont été infectées par le VIH en 2021, dont de nombreuses jeunes filles, selon un nouveau rapport de l'ONU SIDA. Seule la moitié des enfants vivant avec le VIH bénéficient du traitement. Le rapport de l'ONU SIDA indique que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont ralenti les progrès. Les Philippines, Madagascar, la République du Congo et le Soudan du Sud sont parmi les pays qui ont connu les plus fortes augmentations depuis 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique compte plus de 2/3 de la population mondiale vivant avec le VIH. Que pensez-vous des défis concernant l'accès au dépistage et au traitement du VIH? Voici quelques réactions du Nigeria.
Les gens ont accès aux tests de dépistage du VIH, sauf si vous choisissez de ne pas le faire. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas une chose forcée. Nous avons des gens qui viennent volontairement et veulent connaître leur statut. Les laboratoires sont ouverts 24 heures sur 24.
Pour ceux qui pensent que le VIH n'est plus une menace, il peut toujours être une menace. Nous connaissons actuellement de nouveaux cas. Il y a maintenant de nouvelles infections de VIH. Et vous savez, il y a des gens qui vivent des vies à risque et il est possible qu'ils puissent contracter le VIH. Et le VIH n'a pas de remède pour l'instant. And HIV has no cure for now. Il est donc possible que ces nouveaux patients le propagent. New infection and can still spread it.
Youths getting married. Un autre aspect de l'accès des personnes au test, c'est quand vous vous mariez. Vous devez normalement vous rendre dans une clinique gouvernementale pour vous faire tester et vérifier si vous êtes séropositif ou non, et connaître votre statut. Et s'il advient que l'un d'entre vous est séropositif, le mariage pourrait être interrompu, sauf si le couple a l'intention, pour leur amour, de se marier.
Je pense que le problème avec le dépistage du VIH au Nigeria est le coût des tests. J'ai entendu parler de ce test privé de dépistage du VIH que vous pouvez faire vous-même et qui coûte très cher. Alors, pourquoi ne pas réduire le prix et augmenter les produits?
Au Nigeria, c'est la Banque mondiale qui soutenait les activités de lutte contre le VIH. Aujourd'hui, les partenaires ou les donateurs ont retiré leur soutien à l'activité de lutte contre le VIH. Ainsi, lorsque les donateurs nous soutenaient vraiment, nous avions suffisamment d'équipements de tests.
Nous avions l'habitude d'avoir des gens qui allaient à l'école secondaire apprendre à se protéger contre ces virus. Mais il n'y a pas assez de cette éducation maintenant. Normalement, lorsque vous faites des examens médicaux, votre médecin est censé vous demander si vous avez fait aussi le test de dépistage du VIH. Cette question devrait toujours être posée.
Le gouvernement ne fait pas du VIH une priorité. Je pense que c'est probablement à cause du problème de la dette. Et donc, je suppose que c'est pour cela qu'il a réduit le nombre des sites de dépistage.
Mais les gens continuent toujours de se faire tester, en particulier les femmes enceintes. Si vous allez dans une clinique maternelle, ils vous testent pour le VIH pour s'assurer que le bébé est en sécurité et va naître sans le VIH.
Comment répondre aux besoins urgents de lutte contre le VIH-Sida? La réponse de la directrice exécutive de l'ONU-Sida, Winnie Byanyima.
Bien que nous ayons fait d'énormes progrès pour amener les gens à suivre un traitement, beaucoup reste à faire car nous avons encore de nouvelles infections. Il faudra donc mettre la prévention au cœur de la nouvelle stratégie. Nous avons de nouvelles technologies qui suscitent de nombreux espoirs, comme la préparation à action prolongée, les injectables à action prolongée, qui sont des solutions très efficaces. Un traitement injectable à action prolongée est également en préparation et pourrait bientôt être mis sur le marché, mais ceux-ci doivent être accessibles en termes de prix. C'est pourquoi nous faisons pression pour que les entreprises mettent ces nouvelles technologies à la disposition de ceux qui en ont besoin à un prix raisonnable. Lorsque les communautés sont assez informées et bien équipées, les gens bénéficient de services de prévention et de traitement. C'est pourquoi les gouvernements sont tombés d'accord que 80% des services de prévention soient pilotés par les communautés elles-mêmes. Mettons les ressources qu'il faut à la disposition des hommes gays et des travailleurs du sexe, de telle sorte qu'ils mènent la sensibilisation entre eux, car ce sont eux qui savent qui doit être atteint. Nous avons besoin de ressources pour établir notre présence, mais une fois que les ressources sont là, nous avons aussi besoin de technologies, de nouvelles technologies. Il faut que les pays riches partagent leurs technologies afin que les gens puissent accéder au meilleur de la science à bon prix.
En Afrique du Sud, une équipe chirurgicale utilise le robot Da Vinci Z pour aider à retirer une tumeur rectale d'une patiente à l'hôpital public de Tygerberg au Cap. Ce robot chirurgical est le plus avancé d'Afrique.
Le robot Da Vinci 11 assiste l'équipe chirurgicale de l'hôpital public de Tygerberg au Cap pour retirer une tumeur rectale cancéreuse d'un patient. Avec quatre bras contrôlés en temps réel via une console 3D, c'est le robot chirurgical le plus avancé d'Afrique. Da Vinci 11 est l'un des deux seuls robots de ce type utilisés sur le continent. Les deux se trouvent dans les hôpitaux publics sud-africains du Cap. Da Vinci 11 est utilisé principalement pour les chirurgies urologiques, gynécologiques et colorectales complexes.
Heureusement, le ministère de la Santé du Cap Occidental a acheté deux robots Da Vinci, dont le Da Vinci 11, qui est le robot chirurgical le plus avancé actuellement disponible sur le marché. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent de travailler très finement et avec une grande précision. Et ils agrandissent l'image que vous voyez beaucoup plus que les statistiques laparoscopiques normales, afin que nous puissions voir beaucoup plus de détails et ensuite les instruments que vous pouvez manœuvrer avec beaucoup plus de précision et faire un travail plus fin et obtenir les meilleurs résultats.
La première opération utilisant le robot a été réalisée à l'hôpital de Tygerberg en février 2022. Des dizaines d'autres ont été complétées avec succès depuis lors.
Les patients se sont très bien comportés. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. Notre durée moyenne de séjour est donc de 3 jours. Donc, vous avez une opération majeure, les gros cancers sont enlevés et 3 jours plus tard, vous êtes à la maison. Vous pouvez voir qu'il fonctionne beaucoup mieux que ce que nous avions à l'origine. Et nous faisons toutes ces opérations avec un trou de serrure opération.
De cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Dans ce programme, nous avions reçu Mme Mélanie Tarabo d'Alima, une ONG basée à Dakar, au Sénégal. Mélanie Tarabo est référente COVID et responsable médicale opérationnelle au sein de l'ONG. Nous avions discuté des campagnes de vaccination anti-COVID que l'ONG mène en Afrique de l'Ouest pour aider les populations à se protéger contre cette maladie qui est loin d'être terminée. Nous avions également échangé sur quelques activités d'Alima. Ensuite, Nour Moudou a présenté Carnet de Santé dans la deuxième partie de notre programme. Ce magazine Santé a été présenté par Nanit Talani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique
Et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur VOA Afrique.